Il est 5h30 en temps universel. Au micro, Nanit Talani. Merci de nous rejoindre pour Le Monde aujourd'hui. Votre rendez-vous quotidien pour faire le point sur l'actualité. Au sommaire, 70% du territoire burkinabé désormais sous contrôle de l'État. Les autorités saluent l'engagement des VDP. Course à la présidence de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, Raila Odinga et Anil Gayan en lice. Aux Comores, le président Azali Assoumani accorde de nouveaux pouvoirs à son fils. Au Mali, la coexistence pacifique renaît à Koro grâce à un accord local.
L'idée de négocier est venue de l'association Mono Bedo. Nous avons bénéficié du soutien des groupes d'autodéfense et nous avons accepté de déposer les armes. Nous avons vu des bienfaits de cet accord et je demande aux autres de s'inspirer de l'exemple de Koro.
Un reportage à suivre dans notre section magazine. El Bakali conserve l'or. Hugues Fabrice Zongo, qualifié pour la finale du triple saut, revivait les exploits des Africains au JO de Paris dans notre page page sport. Ce sera dans environ 10 minutes, mais avant tout, le journal. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense du régime militaire a déclaré que près de 70% du territoire national est sous contrôle de l'État, dont l'armée a réussi à reconquérir 30% en 2 ans face au groupe djihadiste. Le point avec Eric Manirakiza.
En 2022, seulement 40% du territoire était sous le contrôle de l'État, a rappelé le général Kassoum Koulibaly. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 69%, a-t-il déclaré, sans toutefois citer les localités spécifiques libérées et contrôlées par le gouvernement. Le ministre a précisé que les 31% restants sont des zones presque inhabitées que l'armée tente encore de reconquérir. La conquête du territoire est une action continue, a-t-il souligné, ajoutant que des incursions de groupes armés peuvent encore se produire, mais que la vigilance reste de mise. Il a également mentionné l'engagement croissant des citoyens comme les VDP, malgré leur formation limitée et les lourdes pertes qu'ils subissent dans la lutte anti-djihadiste. Le général Kassoum Koulibaly a insisté sur la sensibilisation des VDP aux droits de l'homme, afin d'éviter les exactions et les actes de vengeance en réponse aux accusations d'abus dirigés contre l'armée et ses supplétifs. Le Burkina Faso est en guerre et il est important de ne pas cacher cette réalité, a-t-il affirmé, après une évaluation de son ministère avec le chef du gouvernement Apollinaire Joachimson KLM de Tambela.
Les États-Unis ont annoncé mercredi à Kinshasa une assistance humanitaire et sanitaire de près de 424 millions de dollars à la RDC en proie à une catastrophe humanitaire en raison des violences armées dans l'Est, en particulier le Nord Kivu, qui connaît un pic de crise depuis novembre 2021 avec la résurgence des rebelles du M23. Dans cette enveloppe, 414 millions de dollars seront alloués à l'assistance humanitaire. Les 10 autres millions de dollars sont destinés à l'assistance sanitaire pour répondre à l'épidémie actuelle du Mpox ou variole de singe en RDC et dans d'autres pays touchés dans la région. L'USAID fait également don de 50 000 vaccins contre la Mpox en RDC, qui est le pays le plus touché par cette épidémie. La police kényane a mis en garde hier contre toute intrusion dans les zones protégées de Nairobi, ajoutant que des criminels avaient l'intention d'infiltrer les manifestations antigouvernementales prévues ce jeudi. Dans un message publié sur X, l'inspecteur général par intérim de la police nationale, Gilbert Masengeli, a mis en garde le public contre la violation de la loi, lui conseillant d'éviter dans des zones protégées telles que l'aéroport international Jomo Kenyatta et les résidences présidentielles. M. Masengeli a poursuivi en mettant en garde les criminels qui prévoient d'infiltrer les manifestations de demain et de commettre d'autres crimes. Il assure que le personnel de sécurité adéquat a été déployé, mais a conseillé au public de redoubler de prudence lorsqu'il se trouve dans les zones très fréquentées, susceptibles de devenir des lieux d'émeute. Au moins trois personnes, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, le Kenyan Raila Odinga et le Mauricien Anil Gayane, sont candidats pour succéder à Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, dont le mandat prend fin en février 2025. Les précisions de John Lindon.
Le poste de président de la Commission de l'Union africaine est réservé pour ce scrutin à un représentant de l'Afrique de l'Est. Je suis le seul candidat capable de faire la passerelle entre les différentes régions de l'Afrique, étant francophone, mais également anglophone et arabophone. Mon objectif premier, si je suis élu, est de faire taire les armes sur le continent, a assuré Mahmoud Ali Youssouf, 58 ans, depuis 2005, ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Il sera opposé à Raila Odinga, 79 ans, vétéran de l'opposition kényane, 5 fois candidat malheureux à la présidentielle. Nous nous concentrons sur le fait de ramener le siège de l'Union africaine au Kenya et de servir le peuple africain, a écrit Raphaël Odinga sur X. Anil Gayan, 76 ans, ancien ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice, a lui déposé sa candidature la semaine dernière. L'élection du président de l'institution continentale se fait par vote secret à la majorité des 2/3 des 55 États membres ayant le droit de vote. Le mandat est de 4 ans, renouvelable une fois.
Le président des Comores, Azali Assoumani, a accordé de nouveaux pouvoirs à son fils, franchissant, selon ses opposants, une nouvelle étape dans la consolidation du pouvoir de la famille sur le petit archipel africain. Le point avec Rosine Mounezero.
Un décret publié mardi stipule que tous les décrets pris par les ministres et les gouverneurs devront désormais être approuvés par le secrétaire général du gouvernement avant d'être officiellement publiés et promulgués. Nour El Fat Azali, 40 ans, fils aîné d'Assoumani, a été nommé à ce poste en juillet. Selon le gouvernement, le décret ne fait que formaliser le rôle du secrétaire général en tant que coordinateur des affaires gouvernementales. S'il ne s'agissait pas de Nour El Fat Azali, ce décret n'aurait passionné personne, a déclaré la porte-parole du gouvernement Fatima Ahmada. Ce décret lui donne des prérogatives très importantes qui, mises bout à bout, modifient l'équilibre institutionnel d'un régime présidentiel prévu par une constitution voulue et imposée par le président lui-même, a ajouté M. Rafsanjani. Mais des voix plus critiques estiment qu'il fait de Nour El Fat, qui a été le conseiller privé de son père en 2019, le premier ministre de facto. M. Assoumani, ancien dirigeant militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1999, a été réélu président en janvier à l'issue d'un vote contesté suivi de 2 jours de manifestations meurtrières. Il est accusé d'autoritarisme croissant.
Les services du président Kais Saied en Tunisie ont annoncé hier soir le limogeage du premier ministre Ahmed Hachani sans donner d'explication officielle. Il est remplacé par le ministre des Affaires sociales, Kamel Madouri, récemment nommé à ce poste. M. Hachani avait lui-même succédé le 1er août de l'an passé à Najla Boudem, elle aussi remerciée sans justification officielle par le président Kais Saied, qui accapare tous les pouvoirs en Tunisie depuis son coup de force du 25 juillet 2021 et est accusé de dérive autoritaire par ses détracteurs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a promis hier de retrouver le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, et de l'éliminer dans un communiqué publié au lendemain de sa nomination à la tête du mouvement islamiste palestinien. Les détails avec Mohamedou Oufa.
Nous allons multiplier les efforts pour le retrouver, l'attaquer, a déclaré Herzi Halevi. S'exprimant devant des pilotes de chasse de l'armée de l'air, M. Halevi a ironisé sur le changement de titre de M. Sinwar. « Ce nouveau titre politique ne changera rien au fait qu'il est un meurtrier », a-t-il dit. L'armée et les autorités israéliennes l'accusent d'être l'un des cerveaux de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre en Israël, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus recherchés par Israël. M. Sinwar, chef du Hamas à Gaza pendant 7 ans, a été nommé mardi soir à la tête du mouvement islamiste palestinien, succédant à Ismaël Haniyeh, tué la semaine dernière à Téhéran dans une attaque imputée à Israël.
En Grande-Bretagne, des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans plusieurs villes pour s'opposer aux émeutes d'extrême droite qui secouent le pays depuis une semaine en réaction au meurtre de trois fillettes. Ces rassemblements se sont tenus sous forte présence policière alors que les autorités avaient plutôt mis en garde les émeutiers qu'ils risquaient gros s'ils répétaient les violences des derniers jours. Vous suivrez une analyse de ces manifestations dans nos dossiers du jour. C'était tout pour les nouvelles. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Le Marocain Soufiane El Bakkali a conservé l'or olympique. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zongo s'est qualifié pour la finale du triple saut. Le Botswanais Letsile Debogo brille sur 200 mètres. En taekwondo, présence remarquée en huitième de finale du Burkinabé Ibrahim Maïga et de la Gabonaise Emmanuela Atoura. En football, duel pour le bronze entre le Maroc et l'Égypte, alors que l'or opposera la France à l'Espagne. Pour plus de détails sur ces exploits et les événements marquants des JO, nous invitons Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Marocain Soufiane El Bakkali a conservé l'or olympique sur 3000 mètres steeple en 8 minutes 6 secondes 5 centièmes devant l'Américain Kenneth Rocks et le Kenya Abraham Kibiwot. La course a été marquée par la chute violente du recordman du monde éthiopien Lamecha Girma. À l'avant-dernière barrière, à un peu plus de 200 mètres de l'arrivée, Soufiane El Bakkali apporte ainsi la première médaille pour le Maroc au JO de Paris. Il est le premier steepleur à conserver l'or olympique depuis le doublé du Finlandais Volmari Iso-Olo il y a quasiment 90 ans, 1932 et 1936. Toujours hier, Hugues Fabrice Zango s'est qualifié pour la finale du triple saut. Le Burkinabé, champion du monde en titre et recordman de la discipline en salle, a assuré sa place en finale en réalisant un bond de 17,16 m lors des qualifications. Par contre, pas de finale de 110 mètres haies pour Louis-François Mendy. En demi-finale, le coureur sénégalais a réalisé une performance de 13 secondes 34, finissant troisième de sa série. De son côté, le Botswanais Letsile Tebogo, candidat à l'or olympique sur le demi-tour de piste, a coupé la ligne d'arrivée du 400 mètres en 19 secondes 96, s'offrant le meilleur temps des demi-finales devant l'Américain Noah Lyles, sacré champion olympique de 100 mètres. Toujours hier, en basketball féminin, il n'y a pas eu de miracle pour le Nigeria. En demi-finale, la marche était trop élevée face aux États-Unis, septuple tenant du titre. Les Nigérians se sont inclinés devant les Américaines 88 à 74. Le Nigeria était déjà entré dans l'histoire en devenant la première équipe africaine, tout genre confondu, à atteindre les quarts de finale en basket dans les JO. Les Américaines vont affronter en demi-finale les Australiennes qualifiées pour leur première demi-finale des JO depuis 2012. De leur côté, les Belges, champions d'Europe en titre, vont affronter vendredi la France. À suivre ce jeudi, plusieurs combats à taekwondo avec des possibilités pour l'Afrique chez les moins de 68 kg hommes. En huitième de finale, le Burkinabé Ibrahim Maïga fait face au Turc Hakan Rekber. Dans la même catégorie, l'Égyptien Ahmed Nassar défie le Français Souleymane Alaphilippe. Chez les dames, la Gabonaise Emmanuela Atoura affronte la Chinoise Luo Zhongxi en huitième de finale dames donc. En football masculin, à suivre aussi le match pour la médaille de bronze entre le Maroc et l'Égypte. La lutte pour la médaille d'or mettra aux prises la France et l'Espagne. Dans la même discipline, chez les dames en finale, les États-Unis affrontent le Brésil. Le match pour la médaille de bronze oppose l'Allemagne à l'Espagne. Grosse affiche en basketball masculin avec les demi-finales. La France fait face à l'Allemagne et les États-Unis affrontent la Serbie. En boxe, nous revenons sur Iman Khelif qui s'est retrouvé malgré elle au cœur d'une controverse sur le genre. L'Algérien de 25 ans affrontera vendredi en finale la Chinoise Yang Liu. D'où vient toute cette polémique concernant le genre d'Iman Khelif et la boxeuse taïwanaise Lin Yuting? Élément de réponse avec Abdourahman Dia.
L'entraîneur de boxe Mohamed Chawa montre une photo de la jeune Iman Khelif. Il soutient que la boxeuse algérienne a travaillé dur pour arriver à ce niveau. La tempête qui l'entoure a éclaté après que son adversaire italienne, Angela Carini, s'est retirée de leur combat en huitième de finale après 46 secondes durant lesquelles elle a subi une avalanche de coups de poing.
Chawa affirme qu'Iman a ressenti l'impact de la controverse.
Iman se connaît, mais il y a des questions dans sa tête et elle se demande pourquoi moi. Elle a été très touchée par cela. Elle a finalement été entraînée dans cette campagne, mais elle leur a donné une leçon d'éthique et de sport.
Lundi, la Fédération internationale de boxe a déclaré que Khalif et la boxeuse taïwanaise Lin Yuting ont été disqualifiés des championnats du monde de 2023 après qu'un test des chromosomes sexuels les a déclarés inéligibles. Le Comité international olympique qui a autorisé les deux pugilistes à combattre au JO affirme que les tests génétiques imposés à Khalif et Lin n'ont pas suivi la procédure régulière.
We have two boxers who are born as women.
Nous avons deux boxeuses qui sont nées en tant que femmes, qui ont été élevées en tant que femmes, qui ont un passeport en tant que femmes et qui ont concouru pendant de nombreuses années en tant que femmes.
And this is the clear definition.
Et c'est la définition claire d'une femme. Il n'y a jamais eu aucun doute sur le fait qu'elles étaient des femmes.
Sur le ring, Iman continue de performer, se qualifiant pour la finale de sa catégorie prévue vendredi face à la chinoise Yang Liu.
Merci Abdourahman. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO de ce jeudi 8 août.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, le ticket démocrate pour l'élection présidentielle est connu. La candidate Kamala Harris a désigné son colistier mardi, mais elle n'était pas la seule à faire parler d'elle à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie. Caroline Presutti, correspondante de la VOA, était sur place. Voici son reportage, relaté par Lionel Gaïma.
Dans la ville où les pères fondateurs ont signé la déclaration d'indépendance des États-Unis, Philadelphie a été un symbole mardi pour les partis démocrates et républicains. Pour la première fois, la candidate démocrate Kamala Harris a présenté son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Kamala Harris, vice-présidente.
Tim et moi avons un message pour Trump et les autres qui veulent revenir sur nos libertés fondamentales. Nous ne reviendrons pas en arrière.
Ancien membre de la garde nationale, devenu professeur de lycée, entraîneur de football et politicien, Tim Walz a enlevé les gants pour attaquer directement le ticket républicain. Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidence.
C'est juste une observation que j'ai faite. Il faut que je le dise. Vous savez, vous le ressentez. Ces types sont effrayants, tout simplement bizarres. C'est ce que vous voyez.
Certains démocrates disent que Walz ramènera les électeurs indécis dans les états pivots. Dan Ladis, électeur de Harris.
Je pense que c'est un noyau démocratique que la campagne Harris devra gagner. Et je pense que Tim Walz parle vraiment à ses électeurs.
Quelques heures auparavant, de l'autre côté de la ville. Le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a tenu son propre meeting avec une particularité. Il a répondu aux questions des médias et avec quelques mots acerbes pour Tim Walz.
Le bilan de Tim Walz est une blague. Il a été l'un des radicaux les plus à gauche de tout le gouvernement des États-Unis, à tous les niveaux.
J.D. Vance a attaqué les démocrates sur l'immigration, le fentanyl et l'économie, qualifiant la chute des marchés boursiers de crash de Kamala. Wayne Eastman, électeur indécis, a porté le mémorandum de Vance alors qu'il faisait la queue pour assister au rassemblement.
C'est inhabituel d'avoir un homme politique qui soit aussi écrivain, alors je suis curieux.
Dans 90 jours, les électeurs américains choisiront entre un ancien président et une actuelle vice-présidente. Mais l'équipe de Harris entonne un comme un champ de guerre pour empêcher un retour de Trump à la Maison-Blanche. À partir de la Pennsylvanie, l'équipe Harris-Walz se rendra dans 5 autres États clés au cours des 5 prochains jours. Wisconsin, Michigan, Caroline du Nord, Arizona et au Nevada. La course est bel et bien lancée et nous saurons le 5 novembre qui franchira la ligne d'arrivée à la Maison-Blanche.
depuis plus d'une semaine, le Royaume-Uni est confronté à des scènes de violence raciste en réaction au meurtre de trois fillettes lors d'une attaque au couteau dans un cours de danse à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le gouvernement multiplie les mises en garde face à de nouveaux appels à manifester venant de l'extrême droite qui font craindre des violences. Eric Manirakiza a joint à Londres Kovi Narsingen, juriste et président du Maurice Global Diaspora.
Ça n'arrête pas de s'envenimer, surtout que ça a commencé dans le nord de l'Angleterre et ça atteint beaucoup des autres villes en Angleterre. Et là, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a expériencé cette même violence, cette même acte d'intimidation, de violence, dans le centre de Londres, si vous voulez. Tout à l'heure, j'ai vu une sorte de vidéo, là où il y a des gens avec des motocyclettes et aussi des quadrupèdes qui sont en train de mettre le feu dans la rue et bloquer la circulation.
Est-ce que c'est un mouvement spontané ou c'est un mouvement qui est organisé et qui a profité de ce qui s'est passé?
Des actions comme ça, c'est comme un soupape. Et là où il y a une certaine frustration qui a duré et perduré, donc moi je ne crois pas que c'est une action spontanée, mais comme vous voyez, même en France, ça a été le cas pour, c'est-à-dire se manifester contre les immigrants. Mais en même temps, si vous voyez, aujourd'hui, en Angleterre, la façon que ça a débuté, je ne pense pas que c'est une action spontanée, mais c'est aussi une action, pour moi, qui a duré dû aux frustrations des immigrants et tout.
Est-ce que c'est une situation qui inquiète des migrants ou c'est une situation, disons, qui va passer?
Écoutez, certainement ça va inquiéter les immigrants en Angleterre parce que c'est une motivation raciste. Et quand vous parlez de motivation raciste, et certainement les immigrants vont être inquiétés. Mais j'espère que ça va se calmer, que le gouvernement va mettre de l'ordre dans ce sens-là. Et pour les Anglais qui comprennent qu'il faut avoir de la paix dans le pays, et pour moi, c'est pas une surprise. Donc avec des gens comme Nigel Farage, j'espère que ça va se calmer, quoi.
C'était Kovi Narsingen, juriste et président du Maurice Global Diaspora. Depuis l'accord de paix entre les communautés Peul et Dogon dans le cercle de Koro au Mali, des signes encourageants de retour à la coexistence pacifique sont observables dans cette localité de la région de Badjangara. La réouverture des marchés et des routes, le retour de certaines populations dans leurs villages d'origine, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens témoignent de ces progrès. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à une médiation locale efficace. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Frontalier avec le Burkina Faso, le cercle de Koro a été longtemps un foyer de violence entre communautés Peul et Dogon. Attaque des villages et hameaux, certaines images prouvent à suffisance l'ampleur de la violence, comme ici dans ces hameaux où la population a fui les exactions.
Pendant la crise, il était difficile de faire paître le bétail en raison des attaques et nous avons également perdu des animaux ainsi que des connaissances durant cette crise.
Face aux attaques persistantes dans la région qui ont causé de nombreux décès et des déplacements, des volontaires se sont mobilisés pour trouver des solutions. Après plusieurs mois de rencontres entre les communautés, sous l'égide de l'association Monobim, les différentes parties ont accepté de cesser les faits.
L'idée de négocier est venue de l'association Monobedo.
Nous avons bénéficié du soutien des groupes d'autodéfense et nous avons accepté de déposer les armes. Grâce à la volonté de tous, nous sommes parvenus à cet accord. Nous avons vu des bienfaits de cet accord et je demande aux autres de s'inspirer de l'exemple de Koro.
Une situation qui favorise la libre circulation des personnes et de leurs biens, la réouverture de certaines foires hebdomadaires et les retours de certains déplacés.
Avec le maire, nous sommes en train de travailler pour faciliter le retour de certains déplacés qui sont à Sévaré. Je sollicite l'accompagnement des autorités pour réhabiliter nos maisons et nos points d'eau.
Sous les hangars en train de confectionner des nattes traditionnelles, cette déplacée d'Ombori se sent heureuse à Koro malgré ses conditions de vie difficiles.
C'est dur pour moi ici, mais je préfère rester. Je sollicite de l'aide pour atténuer ma souffrance.
Après la signature de l'accord de paix, un comité de suivi a été mis en place pour suivre les engagements des différentes parties. Tidiane Ouédraogo pour VOA Afrique, Koro.
L'intelligence artificielle ou IA s'impose rapidement dans divers secteurs au Ghana, notamment dans le domaine de la santé, où de jeunes innovateurs utilisent l'IA pour développer des solutions de pointe. C'est un reportage d'Isaac Kalezi depuis Accra. Le récit est d'Eric Manirakiza.
Mino Health AI Labs, un groupe technologique dirigé par de jeunes innovateurs, est un pionnier de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ils ont développé un outil qui permet de diagnostiquer rapidement et avec précision des affections, contribuant ainsi à pallier le manque de personnel de santé dans le pays. Dans ce centre de dépistage de Koforidua, une ville de la région orientale du Ghana, des professionnels de la santé sont occupés à examiner des images radiographiques numérisées de patients. Ils sont assistés par une générative AI, un outil conçu avec une intelligence artificielle qui détecte et diagnostique rapidement diverses pathologies en analysant les images scannées téléchargées. La plateforme peut générer un rapport médical, prescrire des médicaments et recommander des procédures de traitement, ce qui allège la charge de travail des radiologues comme Daniel Wima.
L'une des choses que j'aime le plus dans l'IA, c'est qu'elle nous permet de poser des questions complémentaires, même lorsque vous avez posé votre première question.
Monsieur Guima est également impressionné par la capacité de l'outil à analyser deux images différentes et à fournir un diagnostic en même temps.
La plateforme est capable de faire la différence entre deux images placées côte à côte, l'une à gauche et l'autre à droite, et de fournir des informations complètes à ce sujet. C'est un aspect fantastique de l'IA que j'apprécie.
Darlington Akogo est le concepteur de cet outil d'intelligence artificielle. Son équipe de Mino Health AI Labs l'a d'abord développé il y a 2 ans, puis l'a remanié cette année pour le rendre plus efficace. Le Ghana compte plus de 90 radiologues pour une population de plus de 30 millions d'habitants, selon l'Association ghanéenne des radiologues. Face à la pénurie de personnel de santé dans de nombreux hôpitaux ghanéens, M. Akogo souhaite que son outil d'IA comble les lacunes.
L'objectif est que tout le monde puisse accéder à des soins de santé de qualité où qu'il se trouve. Alors, donnons plus de moyens à nos travailleurs de la santé en utilisant les solutions d'IA que nous avons développées.
Pour l'instant, grâce à la puissance de la technologie et à ses résultats prometteurs, les patients continuent de se rendre dans des établissements comme celui-ci en sachant qu'ils recevront un diagnostic précis et rapide de leur maladie, ce qui leur permettra de commencer leur traitement sans tarder.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain,
sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà qui conclut notre édition du Monde aujourd'hui. Restez avec nous pour d'autres reportages et analyses tout au long de la journée. Pour plus de détails et de nouvelles en continu, visitez notre site web sur voaafrique.com et n'oubliez pas nos pages Facebook, Instagram et le réseau social X. La VOA par ma voix vous souhaite une excellente journée.